Parler de géographie à la radio, c'est bien sûr aborder les grandes questions que se posent les géographes, parler de leur travail, ou se faire l'écho de l'actualité de la discipline.
Mais pourquoi ne pas aller plus loin et tenter une expérience plus audacieuse? Pourquoi ne pas vous faire entendre l'espace? Si l'expérience vous tente, installez-vous confortablement et laissez-nous enfiler notre attirail de géographe. Et préparez-vous, le départ pour les grands espaces est imminent.
Les grands espaces.
Rémi Demilière,
Thibaut Sardier,
sur Transistor.
Pour inaugurer les grands espaces, nous vous emmenons à Saint-Dié-des-Vosges. Cette petite ville de 23 000 habitants est chaque année, depuis 23 ans, le temps de quelques jours, la capitale mondiale de la géographie. C'est en effet là que se déroule le Festival international de géographie, ou FIG, au pied de la Tour de la Liberté, œuvre architecturale contemporaine qui est loin de faire l'unanimité. Les géographes y rencontrent le grand public et les aficionados, pour le plus grand plaisir des déodaciens, un terme un peu compliqué pour désigner les habitants de Saint-Dié.
L'édition 2012 s'est tenue du 11 au 14 octobre. Elle avait un thème, le paysage, et un pays invité, la Turquie. De nombreuses conférences très intéressantes ont évidemment eu lieu, mais du point de vue des travaux pratiques, le programme était maigre.
Pourtant, le paysage vosgien est loin de laisser les déodaciens et les festivaliers indifférents, que ce soit d'ailleurs en bien ou en mal. Nous avons promené notre micro au pied de cette fameuse Tour de la Liberté, en face de l'hôtel de ville, à l'épicentre de l'espace du festival.
Épicentre ou hypercentre, si vous préférez, selon que vous soyez plutôt géographie physique ou plutôt géographie humaine.
Voilà. Et nous leur avons demandé ce qu'ils pensaient du paysage.
Saint-Dié, pour moi, c'était une ville reconstruite, un peu froide. Mais en réalité, je trouve l'urbanisme déodacien extrêmement intéressant, à la fois dans sa géométrie et puis le jeu des couleurs avec le grès, etc. Et puis, le paysage de bassin avec ses montagnes, et ses belles forêts, ça fait un peu cliché tout ça, mais je trouve ça beau. Bon, alors derrière ce paysage de carte postale, il y a d'autres choses évidemment, mais voilà ce que je retiens.
Alors moi je suis un petit peu de l'extérieur, alors pour ce qui est de la qualité du paysage urbain de Saint-Dié, que je trouve franchement pas terrible, je trouve que c'est une chance pour Saint-Dié d'être justement dans cet écrin de verdure qui contrebalance parfaitement, qui met en équilibre ce qu'on n'a pas trop dans la ville, encore que je n'énigre pas tout,
C'était reconstruit après la guerre. Hein,
donc, voilà. Donc le bénéfice quand même de ces jolies petites montagnettes vosgiennes, les couleurs d'automne, une belle palette, puis voilà.
Si vous deviez envoyer une carte postale de Saint-Dié, ce serait quoi?
La cathédrale.
La cathédrale est jolie. Ouais.
Et j'envoie beaucoup de cartes postales, pas de Saint-Dié même, si vous voulez, mais qu'on se souvienne de la forêt vosgienne. Et donc quand certaines personnes sont parties de la région et qui sont ailleurs pour leur rappeler les Vosges, ils me parlent toujours des sapins. C'est toujours ça qui leur manque.
Oui, la montagne au fond, quelque part. Hein. Bon, avec la brume. Mais non, ça fait vraiment cliché, quoi.
Plus que la ville.
Non, avec un bout de ville devant, si vous voulez. Non, mais c'est vrai que le site, il est quand même particulier. Donc, mais ça peut être... vu du pont qui passe au-dessus de la voie ferrée derrière la gare, où on voit... On devine un petit peu quand même chez la cathédrale, puis le lycée derrière et la montagne, ça peut être ça. Ouais.
Et puis pour moi, parce que représentatif de Saint-Dié, je vais toujours pour le festival de géographie. En fait. Donc voilà, alors avec un logo du festival de géographie.
Alors récapitulons, les jolies montagnettes, la palette des couleurs d'automne, les sapins verts sur grès rose, la brume, l'urbanisme déodacien de la reconstruction, les agapes du Fig. Bref, le paysage de Saint-Dié nous présente plusieurs facettes, selon l'endroit d'où on l'observe, mais surtout selon la subjectivité de celui qui l'observe. Alors, où est le paysage, le vrai, loin des PowerPoints des conférenciers? De quoi se compose-t-il? Comment le contempler, l'analyser, l'interpréter? Nous avons tenté pour vous de répondre à toutes ces questions.
Comment? En allant voir de plus près et d'un peu plus haut ce paysage. En bref, nous avons fait du terrain. Avec Anthony Simon, maître de conférence à l'université Lyon 2, spécialiste de géographie du tourisme qui s'est formé dans la géographie rurale. Nous sommes partis dans le massif du Kemberg, ou Cambert, qui surplombe Saint-Dié au sud. Et nous voilà, avec nos sacs à dos, évidemment, un dimanche matin de bonne heure, sous un temps menaçant qui, fort heureusement, n'a pas tourné à la pluie avant notre retour et n'a pas trop bouché les points de vue.
Et alors là, on va du coup pardon. On va sur la roche d'Anneuil.
La première qu'on va voir, c'est la roche Saint-Martin.
D'accord.
Là, on va prendre un petit bout de sentier. Là, après, on va prendre le sentier qu'on appelle le sentier des amoureux. Après, on arrivera sur une piste forestière où se dégagera un large point de vue sur Saint-Dié. Et de là, on montera la roche Saint-Martin. Et on passera ensuite par la roche du kiosque, sachant qu'on est limité à entre 6 et 7 km et surtout 3 heures de marche. Quoi. Voilà.
On aura quand même un petit panorama.
Oui, tout à fait. Justement, on va vous montrer les sentiers. Voilà.
Celui qui présente l'itinéraire, c'est l'un de nos deux guides. Anthony Simon était quant à lui venu avec un ami universitaire. Et pour compléter la bande, une jeune prof d'histoire géo en lycée apportait, comme elle l'a dit, une touche féminine à l'expédition.
Tu peux te dire que j'étais la caution féminine du truc. Sinon, il n'y avait que des...
C'est vrai.
Que des mecs. Et les géographes, c'est parfois un milieu très mec. C'était moins frappant cette année, mais il y a des années où à Saint-Dié, tu vois vraiment beaucoup, beaucoup plus de mecs. Regarde les intervenants, regarde la quantité d'intervenants hommes par rapport à la quantité d'intervenants femmes.
C'est donc tous ensemble que nous avons entrepris l'ascension du Cambert à la recherche d'un point de vue nous permettant d'admirer, bien sûr, le paysage.
Donc là, devant, c'est Saint-Dié.
Saint-Dié, ouais.
Ah oui, d'accord. Oui, le centre, là. Voilà,
t'as la on a la perspective.
Là, on a la perspective là-bas. Là.
La Routière, il y a la cathédrale là-bas.
Voilà. Ah, on voit bien là, oui, la Routière.
En face de la cathédrale, c'est le bâtiment de Corbusier, fait par le Corbusier. Mm-hmm. Pas une réussite, mais enfin, c'est comme ça. Saint-Dié devait être tout reconstruit comme ça.
C'est-à-dire qu'en fait, on est parti sur les principes de la charte d'Athènes, du Corbusier.
Oui, au départ.
Au départ,
oui, 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 oui. Et je crois que même, le Corbusier était prêt à faire. Puis politiquement, ça s'enchaînait là-dedans et tout a été balancé, quoi. Mais enfin, ils ont pas. C'est pas mieux. Hein. Je sais pas si vous avez vu la Routière. Bon, on peut pas dire que ça soit joli.
Je dirais, est-ce que c'est joli ou est-ce que c'est fonctionnel, ces villes des années 50? Est-ce que c'est des villes très fonctionnelles.
Fonctionnelles, oui.
Est-ce que c'est incompatible, hein?
Voilà, le beau peut-il être fonctionnel? Et en fait, quand on voit Saint-Nazaire, les villes de la reconstruction, hein, Caen, Le Havre, on s'aperçoit qu'en fait, ces villes-là, bon, elles correspondaient un peu à des standards, on va dire, urbanistiques de l'époque, notamment dans l'esthétique des façades, des constructions.
Oui, c'est-à-dire plate, là.
Oui, puis on part sur des immeubles assez bas,
oui.
Ce qu'on voit très bien dans la Routière. Et aujourd'hui, je trouve, moi je l'ai vu notamment à Saint-Nazaire, on redécouvre en fait ces villes. Parce qu'on a l'impression que, enfin, on n'a pas l'impression, c'est qu'elles ont une réelle fonctionnalité, notamment pour l'automobile. Et alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y aurait une reconnaissance tardive, en fait.
Ah, ça, ce système, ce
ouais, de la fonctionnalité de la ville, ouais. Et de son intérêt urbanistique et architectural aussi.
On peut dire aussi peut-être qu'il y avait une certaine vision esthétique.
Alors,
c'est-à-dire on va reprendre le grès parce que les collines autour sont des collines de grès.
Tout à fait.
Et on va essayer d'intégrer ça dans l'espace proche.
Moi, je pense que ces années-là, années 50, années 60, c'est à la fois de l'intégration fonctionnelle et effectivement avec une volonté d'intégration paysagère.
La ligne bleue des Vosges.
Bah, c'est pas la ligne bleue des Vosges, non. Ça. Bah. Voilà. Pas non plus me prendre pour...
Oh, c'est un peu bleu quand même. Hein.
C'est non. Bleu, mais c'est pas la ligne.
C'est bleuté.
Non, elle est là-bas, là-bas.
La ligne, elle est derrière, là.
Elle est derrière, là-bas.
Ah oui, oui, oui.
Nous, là.
On peut pas la voir, là.
Non, non.
D'ailleurs, ce qui est frappant, c'est qu'on vient de s'arrêter devant ce paysage sur lequel il y a la ville au premier plan, mais on a aussi juste devant nous des sapins, on a derrière des collines vosgiennes, et la seule chose qu'on a regardée instinctivement, c'est la ville.
Faut dire que là, on est dans un paysage de bassin urbain et industriel, donc ce qui vient en premier à l'esprit, c'est la ville, d'autant plus qu'on vient de la ville, donc instinctivement, qu'est-ce qu'on va faire? On va se replonger sur la ville. Et ça me fait penser d'ailleurs à une réflexion qu'il y a eu dans une conférence. Les Asiatiques, les Orientaux regardent le paysage de bas en haut.
Ah.
Et nous, Européens, Occidentaux, on le regarde
bon,
de haut en bas. Vous voyez, on cherche tout le temps à avoir des panoramas.
Oui,
on cherche à aller sur des belvédères. Alors que pour les Orientaux, notamment les Japonais, comme la hauteur est sacrée, on va regarder le paysage de bas en haut.
Ah.
C'est-à-dire qu'avec une humilité. Et nous, on a toujours besoin de dominer pour apprécier, vous voyez.
Oui, peut-être oui.
Avançons.
Nous quittons donc ce premier paysage qui offrait une vue sur Saint-Dié et nous repartons à travers la forêt de Résineux vers un nouveau panorama. N'ayant plus de paysage à observer, Anthony Simon reprend ses réflexes de géographe de terrain et de profs aussi. Il entreprend de tester la perception qu'ont les guides de leur paysage.
Alors, la question qu'on pourrait vous poser d'ailleurs, est-ce que pour vous, ça c'est des forêts naturelles ?
Oui.
Ben vous voyez, moi je suis pas du tout d'accord.
Ah bon ? Ah bon ?
Parce que déjà, c'est des forêts qui ont été travaillées par l'homme, notamment au 19e siècle pour... c'était quoi ? C'était le charbon de bois.
Donc, ah, c'est exact.
On alimentait les forêts, c'est ça ?
Ouais.
Ensuite, est-ce qu'on a des essences endémiques ? Pratiquement plus.
Non.
Puisqu'à cette altitude, normalement, si je ne me trompe pas, on devrait avoir des hêtrés.
Un petit
et
peu
les
plus
sapinières,
haut.
Un petit peu plus haut. Peu plus haut. Mmh. Et après, on tombe dans les sapinières.
Absolument.
Or,
absolument.
Tout à l'heure...
On l'a vu en montant sur les... Sur les
tout à l'heure, j'ai bien regardé, on a traversé des bois de résineux,
oui.
Des pins,
oui.
Qui, à mon sens, ont une origine anthropique.
Hein. Oui, j'ai raison.
Ils ont été bien introduits
parce
là.
Il y avait beaucoup de charbonniers autrefois.
Eh bien oui.
Il y a un lieu dit qui est entre la Chelourte et le Honec. S'appelle les Trois Fours. Pourquoi les Trois Fours ? Parce que c'était les, ils coupaient les bois aux alentours. C'est pour ça que c'est la partie là est dégagée. Et ils faisaient du charbon de bois. Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Donc c'est délicat de parler d'une forêt naturelle.
Ah, ouais.
Alors Jean-Robert Pitt, lui, il a bien rappelé que un paysage dit naturel dans le monde occidental, c'est un paysage où l'homme est omniprésent. Mais il faudrait parler d'un paysage anthropisé, ou alors, on a un paysage de nature, voilà. Mais ce n'est pas un paysage naturel. Ce n'est pas possible.
C'est juste. C'est juste.
Quel est justement pour vous un paysage qui serait emblématique du massif vosgien ?
Ah bon, le sapin.
Oui. Donc le sapin ?
Ah oui.
Le ballon derrière et le sapin
ah
devant ?
Oui. Ah, ouais. Ah oui, ça c'est sûr. Ah oui.
Mais un ballon quand même dégarni au sommet ?
Oui.
Parce que ça rappelle quand même le,
genre, ballon de,
le pastoralisme des chaumes.
Oui, voilà, genre le petit ballon qui existe encore, ou le grand ballon. Qui
le grand ballon.
Qui est encore très joli.
Donc pour vous, c'est la crête, donc la chaume avec la, sur les crêtes,
ouais.
Et le sapin au pied.
Oui.
Et est-ce que vous metteriez dans ce paysage emblématique une habitation ? Ou pas du tout ?
Ah, si possible, pas en mettre du tout.
Donc pour vous, le paysage emblématique, c'est un paysage dit naturel, en fait.
Ah oui.
Ben vous voyez, pour les géographes, non.
Non, c'est vrai.
Et non. Non, parce que pour le géographe, le paysage peut être emblématique, même si l'homme le façonne. Donc moi, j'aurais rajouté la petite ferme vosgienne au pied.
Moi, j'aurais rajouté la petite industrie de la vallée vosgienne.
Et la petite cheminée qui fume, qui rappelle le textile.
Oui.
Quand j'ai publié ma thèse, ma couverture de thèse, j'ai mis un paysage vosgien. Avec une vache vosgienne,
ouais.
La vache tachetée,
oui.
La cheminée qui représente l'usine,
la, cheminée.
La petite ferme,
oui.
Et
oui,
en
oui.
Haut, le ballon, mais dégarni, parce que pour rappeler effectivement le pastoralisme. Et ça, pour moi, c'est un paysage qui est beaucoup plus emblématique qu'une forêt d'épicéa.
On peut aller jusqu'à poser la question, est-ce que dans votre paysage emblématique, vous incluriez... des immeubles d'habitat collectif autour de Saint-Dié et éventuellement les quelques pavillons qui entourent, qui se développent un peu autour.
Pour moi, Saint-Dié n'est pas emblématique.
Non.
Pour moi, Saint-Dié est un bassin.
Oui.
Un bassin de vie, un bassin d'emploi. Je ne mettrai pas, je mettrai pas Saint-Dié. Par contre, certains mettraient une vallée vosgienne.
Oui. Une vallée plus étroite, une vallée...
Oui. Moi, je mettrais la vallée de la Bresse.
Ah oui. Ah bah oui. Une vallée vosgienne, oui. La Haute-Moselle aussi, c'est pas mal.
Ah, oui.
Parce que dans la Haute-Moselle, on a l'usine qui est très présente encore.
Ah, oui, plus que chez nous.
Plus qu'à la Bresse, peut-être. Mais la Bresse, c'est vrai que c'est vraiment la vallée de carte postale, quoi.
Ah oui.
Comme la vallée de Munster.
Voilà. Exactement.
Moi, je l'ai mis en parallèle, voyez.
Ah, bah, tout à
l'heure. C'est-à-dire que moi, comme dit vallée vosgienne, c'est plus la vision de la vallée quand t'arrives d'Alsace que celle quand t'arrives de Lorraine.
Parce qu'elle fait plus carte postale, cette vallée alsacienne. Parce que le paysage est un peu mieux tenu par l'agriculture.
Oui,
un petit peu plus côté alsacien, mais pour moi la Bresse, oui, c'est vraiment la vallée type Lorraine, hein, vosgienne, quoi.
Ah oui, c'est joli.
Parce qu'en fait, les visiteurs extérieurs, ils vont s'approprier une certaine image de cette montagne vosgienne. Et en fonction de leur sensibilité, ils vont retenir une ou deux valeurs en particulier. Un géographe, automatiquement, va associer maintenant la montagne vosgienne à Saint-Dié. Depuis l'origine du festival. Parce que c'est notre sensibilité. qu'un cinéphile connaîtra le massif vosgien pour Gérard May. Un ruraliste va connaître le massif vosgien pour... D'abord, c'est quoi pour lui? C'est une race de vaches. Ouais. C'est aussi des fromages, faut pas l'oublier quand même.
Bien sûr, bien sûr.
Le Munster.
Le Munster, bon. Oui.
Et un urbaniste connaîtra Saint-Dié comme étant une ville de la reconstruction. Où Le Corbusier s'est essayé. En fait, c'est le problème. C'est-à-dire qu'en fonction de nos sensibilités, on retient qu'un aspect partiel, en fait, de la réalité paysagère et, osons le terme, et identitaire de la montagne vosgienne. C'est ça l'idée.
Vous nous parlez d'un paysage emblématique, mais force est de constater que la vallée de Saint-Dié est aussi une vallée vosgienne, même si elle ne correspond pas au paysage emblématique. Quelle opération, en fait, on réalise pour passer de l'ensemble des paysages qu'on peut voir à ce paysage typique?
Je crois que le paysage emblématique vosgien, en fait, on peut le prendre à deux niveaux. Il y a, j'allais dire, la réalité paysagère vosgienne du quotidien, qui est celle de l'agropastoralisme traditionnel, de la sylviculture et de l'industrie. C'est à mon avis, vous voyez, l'association entre tous ces éléments qui ont forgé l'identité paysagère. Et je crois que, n'oublions pas, dans les Vosges, on a un emblème idéologique qui est celui quand même issu de la frontière, de la partition de la Lorraine, du rattachement de l'Alsace au Reich allemand. C'est ce qu'on appelle la ligne bleue des Vosges. Et ça fait partie aussi de l'emblème, ce paysage qui est un peu pour moi imaginaire quand même. Hein. Parce que la ligne bleue, c'est quoi en fait? C'est une impression qu'on a, plutôt au matin, non? Ou le paysage est bleuté, c'est ça? Sur les chaumes?
Oui, oui. Mais parfois le soir aussi. Hein.
C'est une ligne de crête.
Qui se dégage. Voilà. C'est très joli d'ailleurs. Mais bon.
C'est vrai qu'on a une impression de bleuté.
Oui, oui.
Mais c'est surtout, pour les Français, et notamment les élèves dès l'école primaire de la Troisième République, une ligne frontière qu'il va falloir dépasser et qu'il va falloir effectivement reconquérir.
Jules Ferry a dit, je vais t'enterrer en face de la ligne bleue des Vosges, ouais, où on entendrait le murmure des vaincus. C'est ça, non?
Oui, c'est ça. Hein?
Ce qui veut dire que du coup, dans le paysage, on retrouve des éléments invisibles qui seraient là,
oui,
ce qu'on imagine au-delà de cette, oui, fameuse ligne bleue, et tout un terrain qui en fait quelque part partie.
Oui.
Et finalement, ces éléments invisibles, s'ils n'agissent pas directement sur l'espace matériel, ils agissent sur quoi? Sur le regard?
Ils influencent d'abord sur ce qu'on appellerait la perception, qui est un terme qui a été moult fois employé. Cette perception, on la construit sur des représentations, et ces représentations peuvent être inculquées en amont, notamment, on a évoqué le rôle de l'école, qui a forgé aussi une géographie de la France, et des Vosges très particulières. Mmh, c'est joli. On a des hauts lieux, et j'ai l'impression qu'ici quand même, c'est vraiment omniprésent, quoi. C'est-à-dire où se trouve, le paysage et emprunt de ça.
Là, c'est surtout sur le massif.
Là, en face, là.
Le massif en face, toute la ligne de crête est parsemée d'abris, oui, de fortins.
Au bout de cette dernière montagne, là, dans le trou, là, bon, c'était la frontière allemande quand même, hein, 19 km d'ici. Hein. D'ailleurs, quand on passe encore en randonnée là, sur les crêtes, où on a ces histoires de bornes frontières, avec le D d'un côté et le F de l'autre côté, il y a 4056 bornes quand même. Hein. Par exemple, chaque fois qu'on y passe, on en parle, parce que sur il y a le F bien apparent, mais le D est massacré, a été buriné.
Donc en fait, moi j'ai l'impression
Ce qui veut dire que ça reste encore.
Votre lecture du paysage sur l'horizon, vous avez toujours dans votre conscience, en fait, la notion de frontière.
Ah ben c'est
pour
sûr.
Vous, ça reste une frontière.
Ah ben non, mais c'est sûr.
Et est-ce que les habitants le perçoivent? Et est-ce qu'il y a des comportements, des fois, un peu, voyez... un peu antagoniste entre des gens qui habitent de l'autre côté et vous de ce côté-là.
C'est pas qu'il y a un antagonisme, mais enfin, là, je veux dire, il y a le fait du dialecte. Dès que vous passez de l'autre côté, vous rencontrez toujours le dialecte. Donc, il y a effectivement cette source qui reste quand même.
Ça reste, ça.
Ça reste.
Le dialecte, ça vous semble marquant aussi. Enfin, ça frappe quand on. Ça frappe encore aujourd'hui.
Ça frappe encore aujourd'hui, je pense.
Oui. Hein. Suivant aussi la personne. Hein, parce que
c'est ce qu'on appellerait le paysage immatériel, c'est-à-dire l'aspect culturel, qui marque aussi de son empreinte, on va dire, une certaine opposition entre les deux versants. Quoi. Ouais, ça veut dire qu'on ne peut pas simplement se contenter de lire un paysage sur le patrimoine bâti, sur le patrimoine forestier, et qui a quand même l'empreinte de l'histoire qui est ici très forte. Hein.
Et du coup, est-ce que tout le monde peut lire le paysage, puisqu'il semble y avoir des éléments mémoriels qui ne peuvent concerner que les déodaciens qui ont vécu ça. Et du coup, est-ce que quand on est extérieur, il y a moyen d'accéder à cette lecture du paysage? Est-ce qu'elle peut se transmettre éventuellement?
Je pense.
Non, mais je pense qu'au fur et à mesure des années, qui s'estompent. Hein.
Ça
s'estompe. Oui.
C'est-à-dire les traces de la guerre s'estompent?
Les traces, pas forcément, mais... peu à peu, ça, on je dirais pas dans l'oubli, mais bon, ça s'atténue quand même. Hein.
Le poids de l'histoire s'atténue, donc le paysage change. Il change parce qu'il n'a plus la même signification pour ceux qui l'observent. Les Vosgiens d'aujourd'hui n'ont pas vu la guerre, et les témoignages qu'ils peuvent en avoir sont de plus en plus indirects. Mais pour les géographes qui étudient l'espace, entendre toute cette discussion à propos du paysage est un peu troublant et suscite un grand nombre de questions, à commencer par celle-ci.
Là, on a quand même beaucoup parlé d'un espace marqué par la guerre, ou alors sur la colline sur laquelle on se trouve, d'un espace qui peut être tantôt un espace de promenade, de cyclisme, etc. Quand est-ce qu'on peut passer comme ça d'une perception de l'espace à une perception du paysage? Ce qu'on pourrait se dire, tout ce qu'on vient de dire, c'est pas le paysage, mais c'est l'espace vosgien.
Oui. Ben, je pense qu'on le voit bien dans les propos de nos guides, hein, il y a très certainement une confusion entre espace et paysage. C'est-à-dire qu'en fait, l'espace, si vous voulez, bon, c'est la portion... On peut revenir d'ailleurs sur la définition de base de l'espace, pour comprendre ça. Du paysage, pardon. C'est quand même la portion de l'écorce qu'on donne à voir. L'espace, c'est quoi? C'est la partie superficielle de l'écorce terrestre. Le paysage est l'aspect visible. Mais ce paysage, on peut l'expliquer avec deux composantes, j'allais dire. Il y a la composante objective, qui relève de la géomorphologie d'abord. Ce qui est d'ailleurs assez étonnant dans les propos, vous avez vu, on a peu parlé de géomorphologie. Alors que c'est quand même quelque chose qui est fondamental. Pourquoi? Puisqu'on est sur un relief de grès qui façonne déjà les formes, mais qui donne une empreinte, une tonalité et une identité géomorphologique. On a quand même ce grès rose des Vosgiens. Ensuite, on a l'aspect climatique aussi, qui peut expliquer le paysage. Autrefois, pour évoquer un peu l'analyse géographique du paysage, quand on étudiait un paysage autrefois dans des sorties de terrain, c'était le paysage physique qu'on étudiait dans un premier temps. Et j'avoue que ça commence à m'inquiéter un petit peu cette affaire. Parce que à force de parler d'imaginaire, de perception, de représentation, est-ce qu'on n'est pas en train de passer un peu d'occulter, j'allais dire, l'aspect objectif d'un paysage, vous voyez, qui doit être expliqué par la géomorphologie, par la climatologie, par la biogéographie. Ça, c'est la première chose. Et donc, effectivement, l'approche subjective du paysage, à mon avis, est devenue vraiment l'objet d'études majeures maintenant de la géographie paysagère, hein, incontestablement.
Mais quelle serait une approche objective du paysage alors ?
L'approche la plus consensuelle, c'est le paysage comme interface. C'est-à-dire, c'est l'approche qu'on retient, j'allais dire, dans l'enseignement de la géographie, au niveau de la licence notamment, on se repose sur l'approche paysagère comme interface. C'est-à-dire, le paysage, en fait, rend compte de l'interaction entre l'homme et l'environnement. C'est un résultat. Voilà. Et j'ai l'impression que pour nos guides, c'est pas tout à fait ça en fait. C'est un lieu d'événement, vous voyez, plus qu'un résultat. C'est ça qui m'a un peu, qui m'interpelle moi dans leur approche, quoi.
Est-ce que les géographes sont les seuls légitimes à parler du paysage ?
Absolument pas. Là, ma réponse est très claire. Je crois qu'il y a une appropriation par les géographes de la lecture paysagère, comme il y a une tentative d'appropriation aussi de la science de l'aménagement du territoire, parce qu'il ne faut pas l'oublier non plus. Le paysage, en fait, relève d'autres sciences, la philosophie, l'histoire de l'art, la sociologie aussi. Bon, pourquoi la géographie ? Parce que la géographie est une science qui est apte à synthétiser, en fait. Ça voudrait dire, nous, que notre légitimité, elle est dans la démarche synthétique. Vous voyez ? Mais elle n'est pas forcément dans la démarche purement analytique. C'est là où je veux en venir. On n'est pas les seuls à pouvoir interpréter et analyser un paysage. Chaque scientifique aura son approche. Nous, peut-être qu'on est les plus légitimes à faire une synthèse. Mais pour arriver à quel résultat ? Pour arriver au résultat, à mon avis, le plus plausible, c'est-à-dire celui de l'interface, d'une visibilité des interrelations entre l'homme, si vous voulez, et l'environnement. Du moins pour légitimer notre objet. Et mon inquiétude, elle vient du fait que on est peut-être trop en train de passer sous silence la composante objective physique, en quelque sorte, au profit, vous voyez, d'une géographie des perceptions, des représentations, qui relève davantage du mental que du spatial. C'est Moll, hein, qui disait ça dans les psychologies de l'espace, que j'avais cité en conférence, et où il nous rappelle bien qu'il faut à tout prix associer le mental et le spatial. On ne peut pas dissocier les deux. Enfin, du moins, moi, c'est l'approche que j'ai retenue, notamment pour l'approche touristique, hein, du paysage.
Étudier un paysage en géographe, c'est donc être attentif à tout, de son substrat géologique à l'affect des hommes et des femmes qui y vivent, sans oublier le poids de l'histoire, qu'il s'agisse du temps long, des mutations agricoles, industrielles ou urbaines, ou du temps court, mais ô combien traumatique des guerres, 1870, 1418, 1939-1945. C'est ne privilégier aucun facteur explicatif, et n'en exclure aucun non plus, a priori, juste observer, écouter, et sentir pour comprendre. C'est savoir que le détail le plus insignifiant en apparence peut contenir la clé de l'énigme.
Et que par conséquent, en bon géographe, il ne faut laisser aucun détail de côté. Et nous avons bien fait, car nous avons découvert, au détour d'un chemin, certains emblèmes paysagers, pour le moins inattendus.
Les belles amanites tu mouches.
C'est beau, hein ? Ça là, c'est... c'est tellement emblématique aussi, ça. Vous trouvez pas ?
C'est emblématique de quoi alors ?
Bah, les champignons tels qu'on représente dans les livres pour enfants. Les champignons typiques avec des rouges avec des points blancs. Bah, c'est pas typique. Je vais prendre en photo parce que.
De l'emblème à identifier quand
même. Ouais, ça va aller sur Facebook ça. C'est parfait.
Ouais.
C'est vrai que c'est des champignons bien emblématiques.
Bah oui. Quand tu veux représenter un champignon dans un livre d'enfant, tu mets ça.
Bah, l'emblème devient la norme. Hein. C'est ce qu'on disait. Vous voyez, ça c'est typique.
Et c'est ainsi que s'est peu à peu terminée notre escapade avec Anthony Simon, que nous remercions chaleureusement pour sa participation à cette première. Il est donc le parrain de cette première saison de l'émission.
Mais pour conclure, nous avons choisi de quitter un peu le terrain et de donner la parole à Yann Calberac, jeune docteur qui a soutenu voilà presque 2 ans une thèse intitulée « Terrain de géographe, géographe de terrain ». Il était donc impossible de ne pas le convier à la première des grands espaces, émission pour laquelle le terrain est, vous l'avez compris, incontournable. Nous lui avons demandé de nous dire comment parler du terrain, mais aussi comment le faire entendre. Eh bien Yann, c'est à vous de nous donner la réponse.
Comment faire entendre le terrain ? Voilà une question peu habituelle pour les géographes qui, par tradition ou par habitude, ont favorisé la vue au détriment de l'ouïe et l'autopsie, c'est-à-dire, comme nous l'apprend le Robert, l'examen attentif et approfondi, au détriment de l'écoute. Il a fallu bien du temps, et quelques renouvellements disciplinaires aussi, pour que les paysages sonores ou olfactifs deviennent des objets tout aussi légitimes que les beaux panoramas qui ont fait les heures de gloire de la géographie classique et de son exercice canonique, le commentaire de paysage. À croire que les géographes, pourtant enclins au travail au grand air, parvenaient à se couper totalement de leur environnement qu'ils percevaient pourtant et qu'ils parcouraient avec grand effort. Comme le rappelle avec malice Francine Barthes, les géographes ont longtemps eu des pieds et des yeux, mais rien, absolument rien entre les deux. Pas de peau pour toucher, pas de nez pour sentir, et surtout pas d'oreille pour entendre. Je n'écoutais donc rien quand je suis allé à mon tour sur le terrain pour filmer des géographes faire le leur. Armé d'une mini DV, une toute petite caméra qui tient dans la main, j'ai commencé à observer et à filmer. Et donc, paradoxalement, aussi, à écouter. Filmer le terrain, c'est déterminer un point d'écoute avant de fixer un point de vue. Le micro, de faible portée, intégré à la caméra, oblige en effet à définir ce que l'on veut entendre avant de décider ce que l'on veut montrer. Il faut composer avec le paysage sonore et rendre intelligible une séquence, malgré un bruit de fond parfois envahissant, qu'il s'agisse d'une cascade assourdissante ou d'une intense circulation automobile. Comment, dans ce brouhaha, faire porter la question du chercheur et recueillir la réponse de son interlocuteur ? Parole infiniment précieuse, parce que rare, la voix de ceux à qui l'on donne pas toujours la parole. Donner de la voix, et la faire entendre, c'est donner de la visibilité. Mais où se placer pour filmer cet échange ? Un peu loin, pour embrasser les deux interlocuteurs dans l'environnement au risque de faire entendre le bruit de fond et non le fond de leur échange ? Ou tout près, afin d'enregistrer au mieux ce qui est dit, mais au risque d'être un peu trop intrusif et d'effrayer ceux par lesquels on cherche à se faire accepter ? Filmer devient donc une expérience de la distance que l'on doit tenir avec la situation observée et avec les chercheurs qui y sont impliqués. Jean-Luc Godard évoquait au cinéma une « morale du travelling ». En géographie, nous pourrions mobiliser une éthique de la prise de son. Ne se demande-t-on pas, au commencement d'un entretien, comment garder une trace de la parole échangée ? Comment recueillir non seulement cette parole, mais aussi le grain de la voix qui la profère et qui en dit souvent beaucoup plus qu'elle ? Le micro concurrence alors le stylo, mais le risque de toute captation n'est-il pas justement de capter à son seul profit la parole d'autrui ? Le détour par la technique nous apprend ainsi que faire du terrain, c'est non seulement être à l'écoute, mais c'est aussi démêler tout ce que l'on entend pour rendre audible ce qui mérite de l'être. C'est à ce prix que l'on peut trouver un terrain d'entente.
Merci Yann de nous avoir relaté cette expérience qui est somme toute assez proche de celle qui nous intéresse ici dans cette émission. Il s'agit bien de faire entendre le terrain. Vous venez d'écouter Les Grands Espaces, l'émission de géographie de Transistor, produite et réalisée par Thibaut Sardier et Rémi Desmoulières. Un grand merci à l'équipe de transmission qui nous a ouvert son studio à Paris pour l'enregistrement de notre petit récit, et notamment à Arthaud Charpentier. Merci également à Antoine Sims pour l'enregistrement, à Lyon cette fois, de la chronique de Yann Calberac. Merci à tous d'avoir été au rendez-vous de cette première, et à bientôt pour vous faire entendre Les Grands Espaces.